à 19h.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bon jeudi 3 juillet 2025. Hélène Denis qui vous tient compagnie aujourd'hui jusqu'à 11h avec grand plaisir. Mathieu Tessier, comment allez-vous?
Il va très bien.
Elle-même?
Elle-même va bien. C'est notre dernière ensemble avant un bon bout de temps.
Oui.
Toute bonne chose à une fin, mais au moins, on va se retrouver quelque part fin août, début septembre. Yvan Deslauriers sera à ce micro dès lundi pour animer au quotidien et Denis-Martin Chabot sera avec vous pour la suite des choses. Yvan n'est pas là aujourd'hui, mais Monique Quiroua qui est présente. Bonjour Monique.
Bonjour Hélène, bonjour Mathieu.
Monique, vous avez choisi un sujet brûlant d'actualité.
Oui, mais avec une perspective un peu différente. Oui, on va parler de, mon Dieu, des difficultés que vivent de nombreuses personnes à trouver un logis, mais aussi de l'entraide que des chercheurs ont analysé, en fait, des chercheurs de l'Université de la TELUC. L'équipe est dirigée par Nicolas Ben-Cherki. Alors, ils ont analysé des échanges entre locataires sur les réseaux sociaux et ça met en évidence, en fait, l'importance de cette forme d'entraide et peut-être apporter une certaine lumière, je dirais, au bout du tunnel.
Bien, tant mieux, on sera à l'écoute certainement, Monique. Et vous allez aussi partager avec nous 5 propositions de l'OQLF dans le Petit Larousse illustré, l'OQLF qui est l'Office québécois de la langue française. Et on en parle ce matin.
On en parle?
Bien, pas des 5 propositions nécessairement, mais on a donné le go à Legault. Souvenez-vous de la controverse autour de...
Tout à fait.
Oui. Alors, on pourra en parler rendu là.
Oui, excellent.
OK, parfait. Merci, à tout à l'heure. On aura également une conversation avec Caroline Fortin, qui est rédactrice en chef du magazine Continuité, magazine qui s'intéresse à l'histoire, au patrimoine. Et le numéro d'été porte sur le patrimoine industriel. Beaucoup de belles chansons pour souligner l'été, comme celle de Mike Lee.
Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Elles seront là, comme moi pour toi, que belle est ça. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Une samba dans notre palace tropical. Un peu fort sur la lampe, à l'arrière du camion de fruits. Sous le ciel de tes jasmins, à l'intérieur à l'eau affilée. De l'océan, cela coulait comme le Titanic. Oh, c'était tenant, oui. Comme le tonnerre et la pluie. Yeah, yeah, yeah. La-di-da. Ba-da-da-da, yeah. Si je reviens à Montréal, c'est pour repartir un d'or. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Seront là comme moi pour toi, que belle est ça. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Et le samba dans notre palace tropical. Elles seront là comme moi pour
blessa. Soldat, tu soldat, j'aimerais danser sur les vagues. Une samba dans notre palace tropical.
Camion de fruits, une chanson de Mike Clay.
À la une de la presse plus environnement, le mystère du lac disparu, on dirait le titre d'un conte pour tous. Et pourtant, on est dans la réalité. À la mi-mai, le lac Rouge a littéralement disparu de la carte dans le nord du Québec, écrit Éric-Pierre Champagne dans la presse. Situé une centaine de kilomètres au sud de Chappé, ce plan d'eau d'une superficie d'environ 3 km carrés se trouvait au cœur d'un territoire qui a subi plusieurs contre-coups au cours des dernières années. Si les indices susceptibles d'expliquer un tel effondrement sont nombreux, les réponses, elles, pourraient être plus difficiles à obtenir, estiment les scientifiques. Ce sont des membres de la communauté Cree de Waswanipi qui ont été les premiers à constater la disparition du lac Rouge. Pour Paul Dixon, la perte du lac a constitué un véritable choc. Si nous perdons nos forêts, nos eaux et notre faune, nous perdons notre langue Cree. Nous appelons cela nos terres ancestrales. Notre terre est notre vie, dit Paul Dixon, membre de la communauté Cree de Waswanipi. Ce qui rend la disparition du lac si exceptionnelle, c'est qu'elle ne peut être attribuée à l'effondrement d'un barrage, comme ça a été le cas dans le passé pour d'autres plans d'eau au Québec. Selon le biologiste Nicolas Mainville, qui est directeur conservation et climat de la Société pour la nature et les parcs section Québec, il est difficile d'exclure dans cette histoire l'impact des incendies de forêt dans le secteur qui ont été suivis par des opérations de récupération du bois par l'industrie forestière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des coupes de récupération après un feu. Ce ne sont pas les pratiques les plus subtiles. Il n'y a absolument rien qui est laissé sur place. Ensuite, on fait du scarifiage. On va carrément labourer les sols pour pouvoir replanter. Il soupçonne une diminution radicale de la capacité des sols à absorber l'eau dans ce secteur. Les experts et les représentants autochtones semblent s'entendre sur le fait qu'un glissement de terrain serait à l'origine de la catastrophe, ouvrant ainsi une voie pour le passage de l'eau vers un plan d'eau voisin, mais les avis divergent sur les causes du glissement de terrain. Dans un courriel transmis à la presse, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a cependant refusé de se prononcer sur les causes possibles de la disparition du lac Rouge et nous a invités à communiquer avec le ministère de l'Environnement. Des techniciens de la faune du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs se sont déplacés sur les lieux. Selon les constats sur le site, le phénomène s'apparente à un glissement de terrain. Il semble s'agir d'un phénomène naturel isolé, indique Ève Morin-Desrosiers, qui est conseillère en communication. Selon Sylvain Delagrange, qui est professeur d'écologie fonctionnelle à l'Université du Québec en Outaouais, on ne peut exclure l'impact des incendies de forêt et des coupes de récupération comme explication possible à la disparition du lac. Sylvain Jutras, spécialiste de l'hydrologie forestière à l'Université Laval, est moins catégorique. Mon opinion, c'est une analyse sommaire de ce qui s'est passé, mais de là à pouvoir pointer une cause, c'est difficile parce qu'il y en a probablement plusieurs. Une chose est sûre, un tel événement est rare sur un lac 100% naturel où il n'y avait pas de barrage. Alors, je vous ai lu plusieurs extraits de ce long article signé, je vous le rappelle, Éric-Pierre Champagne, qui fait la une de la presse plus d'aujourd'hui. Autre titre à la une de la presse, Namatasse-toi, la deuxième saison d'Inspirer, Expirer est encore plus étoffée et réussie que la première, écrit Hugo Dumas. Aussi, Marie-Ève Fournier qui signe une chronique très intéressante. Client fantôme, une pénalité à partir du 17 juillet. Les restaurateurs pourront facturer 10 $ aux clients qui n'honorent pas leur réservation. Alors, le savoir-vivre se perd. On crée des lois pour tenter de changer les choses. Et puis, à la une du Devoir maintenant, des milliers de demandeurs d'asile touchent leur premier chèque réduit. C'est Isabelle Porter qui en parle. Le gouvernement Legault a commencé à réduire le soutien social offert aux demandeurs d'asile présents au Québec en abolissant une allocation de quelques dizaines de dollars par mois offerte à ceux qui reçoivent de l'aide sociale. Des dizaines de milliers de personnes seront touchées. L'aide supprimée consiste en un ajustement, entre guillemets, offert aux demandeurs d'asile pour compenser le fait qu'ils n'ont pas accès au crédit de solidarité. Comme les autres prestataires de l'aide sociale, la somme accordée oscille entre 15 $ et 30 $ par mois, selon la situation du prestataire, en couple, en colocation ou pas. L'Europe transpire sous des chaleurs records, on en parle depuis quelques jours. Aussi, les femmes absentes des toponymes de bibliothèque. À Montréal, Hélène Charbonneau est la première travailleuse de bibliothèque à donner son nom à l'un de ses édifices. La bibliothèque Dantzic à Montréal a changé son nom. Elle est devenue, le 19 juin, la bibliothèque Hélène Charbonneau, en hommage à celle qui a travaillé près de 20 ans et qui a été une des pionnières ici de l'animation autour du livre pour enfants. À Montréal, seulement 3 bibliothèques sur 48 portent le nom d'une femme. Dans les 10 plus grandes villes du Québec, elles sont 19 %. Où sont les femmes? À Montréal, la bibliothèque Hélène Charbonneau est la première de la métropole à porter le nom d'une travailleuse des bibliothèques. En 2027, si les rénovations de la bibliothèque Saint-Charles respectent les délais, celle-ci sera rebaptisée Eva Circé-Côté, en l'honneur de celle qui fut bibliothécaire, mais aussi journaliste et militante. Attribuée à une bibliothèque montréalaise le nom d'Hélène Charbonneau, ne relève pas simplement de la commémoration, estime Marie D. Martel dans une lettre ouverte au Devoir. C'est une manière de corriger un déséquilibre historique, de redonner une juste place à celles qui ont bâti, pensé, incarné le service public, continue la professeure à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, qui était membre du comité qui a choisi le nom, le nouveau nom, de la bibliothèque Hélène Charbonneau. On écoute Serge Fiori et je vous parle d'un événement qui aura lieu autour en l'honneur de Serge Fiori, puisqu'on a maintenant la date de ses funérailles, les funérailles de l'auteur, compositeur, interprète Serge Fiori, qui prendront la forme d'une cérémonie d'hommage national, auront lieu le 15 juillet prochain à la salle Wilfrid Pelletier à Montréal. On écoute Harmonium et sa voix absolument belle et inoubliable, celle de Serge Fiori. Et je vous donnerai un peu plus de détails sur cette cérémonie après la chanson.
Quelques croix qu'il avait sauvées du froid. vieux battant, souriant à la vue d'un passant, l'été achevé.
Courroie d'harmonium.
Oui. Alors, comme je le disais, les funérailles de Serge Fiori, qui vont prendre la forme d'une cérémonie d'hommage national, auront lieu le 15 juillet. C'est un mardi à la salle Wilfrid Pelletier à Montréal. Le premier ministre François Legault et la famille du fondateur d'harmonium en ont fait l'annonce par voie de communiqué mercredi, hier matin. La cérémonie débutera sur le coup de 15 heures dans la salle de la Place des Arts. Des laissez-passer seront disponibles pour le public, mais leurs modalités, tout comme le déroulement et le contenu de la cérémonie, seront dévoilés au cours des prochains jours. Le drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement sera mis en berne de l'aube au crépuscule le jour de la cérémonie. Serge Fiori s'est éteint le 24 juin, jour de la fête nationale du Québec, à l'âge de 73 ans. Et puis, dans la presse, on parle des aéroports au pays qui ont été visés par des alertes à la bombe, dont Montréal-Trudeau. Plusieurs aéroports canadiens, dont Montréal-Trudeau, ont vu leurs opérations être brièvement perturbées ce matin en raison d'alertes à la bombe. L'agence qui régit le trafic aérien au pays, NAV Canada, ne nomme pas d'aéroport en particulier, mais indique sur son compte X que les installations visées sont à Montréal, Ottawa, Vancouver, Winnipeg, Calgary et Edmonton. Les employés des emplacements touchés sont en sécurité et un arrêt au sol temporaire a été mis en place dans les aéroports concernés, ajoute l'agence. Un porte-parole de l'aéroport Montréal-Trudeau a indiqué que tout était revenu à la normale vers 8h30. Une tour de NAV Canada a été évacuée de façon préventive et on note que la situation a eu un impact léger sur l'horaire des vols. NAV Canada invite tout de même les voyageurs à s'informer auprès de leur compagnie aérienne puisque des délais pourraient être à prévoir. Et la une du Journal de Montréal aujourd'hui s'intéresse à la santé. Les 10 cliniques championnes du Québec, 100 000 rendez-vous pour leurs patients. Une dizaine de cliniques médicales ont réussi le tour de force d'offrir plus de 100 000 rendez-vous au cours de la dernière année. Au moment où l'accès à un médecin de famille reste difficile au Québec, c'est une clinique de Québec qui arrive en tête de ce palmarès, compilé par le journal à partir des données du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est flatteur que les chiffres nous donnent raison sur la quantité, mais je suis convaincue que la qualité est aussi au rendez-vous. Pour nos patients, se réjouit la docteure Chantal Guimond, directrice médicale de Ma Clinique Le Bourgneuf à Québec, qui a offert 185 000 rendez-vous médicaux depuis un an. Cette clinique de Québec est suivie de plusieurs autres situées dans la région de Montréal. Alors, je vous les nomme, la Polyclinique médicale Concorde à Laval, le Centre médical Mieux-être à Saint-Léonard à Montréal, le Centre médical Mieux-être à Anjou, toujours à Montréal, la Clinique médicale du Sud-Ouest à Montréal, le Centre médical Brunswick à Pointe-Claire, la Clinique médicale Pierre-Boucher à Longueuil, District médical à Montréal dans le quartier Onsic, GMF Plateau Marquette à Sherbrooke et le Carrefour médical Vallée du Richelieu à Belleuil. Quatre raisons derrière leur succès, au moins 20 médecins. Il faut un grand bassin de médecins de famille pour offrir autant de rendez-vous. Plusieurs salles en même temps et des spécialistes. De plus en plus de cliniques sont conçues pour avoir plus de salles de consultation que de médecins. Ainsi, il y a toujours un roulement de malades prêts à être auscultés. Beaucoup d'infirmières et des plateformes efficaces. Fini le temps perdu à attendre au bout du fil pour espérer un rendez-vous. Les cliniques qui offrent plus de 100 000 rendez-vous par année ont des systèmes de rendez-vous en ligne rapides. Alors, voilà pour la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Et je voulais vous parler du spectacle. Je parle de toutes sortes de sujets, mais j'ai du temps. On va entendre tantôt quelques notes de Jean-Michel Blais, qui est accompagné par l'harpiste. Elle s'appelle Lara Somougil et ils sont en spectacle ce soir au Jésus. C'est à compter de 18 heures. On aime ça, des spectacles de bonne heure. On va souper avant ou on va comme luncher après. Mais malheureusement, le spectacle est complet. J'espère qu'ils vont revenir pour présenter d'autres spectacles. Ici, c'est dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal que ça se passe. Et il y a toutes sortes de spectacles. Si j'ai le temps, d'ici 11 heures, je vous donnerai des suggestions pour la fin de semaine qui s'en vient, pour l'été aussi qui est en cours. Il y a beaucoup, beaucoup de festivals. Le Festival d'été de Québec qui commence aujourd'hui. On a vu Rod Stewart débarquer de l'avion tout en blanc, qui dansait il y a 80 ans passés. Et il est en pleine forme. Alors, c'est rassurant, c'est encourageant. Et puis, jeudi dernier, c'était la grande première montréalaise de Chicago au Théâtre Saint-Denis. Tout un tapis rouge. J'y étais, distribution 5-6 étoiles avec Véronique Dicker, Tara C. McLeod, qui sont toutes les deux formidables. Il y a aussi Michael Girard en voix, Mélissa Bédard en voix, Nive, l'humoriste, qui est très touchant, classique de Broadway, donc qui a conquis la salle au grand complet. Ça n'arrêtait pas d'applaudir après chaque numéro. Et le public a été vraiment transporté dans le Chicago des années 1920. 14 musiciens, une troupe de plus de 15 danseurs, des chorégraphies admirables, enlevantes, exécutées avec fougue naturelle, comme s'il n'y avait rien là. Et il y a Luc Boulanger de La Presse qui a écrit « Ce spectacle frise la perfection ». Alors, si cela vous intéresse, Chicago est présenté au Théâtre Saint-Denis à Montréal jusqu'au 27 juillet. Et le spectacle Bonne Nouvelle part en tournée dans la salle du Théâtre Capitole du Québec à partir du 9 août. À Gatineau, au Théâtre du Casino, à compter du 10 septembre. C'est à voir si vous aimez les comédies musicales. C'en est toute une. Chicago, qui est une comédie musicale américaine écrite par Bob Fosse, Fred Ebb, et les paroles sont de Fred Ebb et la musique de John Kander. Ça déménage. www.chicagolacomediemusicale.com, qui est présentée dans le cadre du festival Juste pour rire. Ça vaut vraiment le coup. Les billets ne sont pas donnés. Mais c'est un... mais là, c'est vrai qu'on a ouvert le balcon, le deuxième balcon de l'espace Saint-Denis. Là, si on se concentre sur Montréal, des billets un peu plus abordables. Vous apportez vos jumelles et vous êtes un peu plus dans le coup. Ah, ça fait du bien, cette musique soirée vraiment calmante, planante ce soir. Si vous avez la chance d'avoir vos billets pour assister à ce spectacle de Jean-Michel Blais et Lara Somogil, on vous offrait la pièce « Refuge » de l'album qui s'intitule « Désert ». À venir, la chronique avec Monique.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'arpente des vies anciennes et j'éloigne chaque seconde qui s'accroche au passage en départageant la
aboutissement, une chanson de Julie Hamelin.
Monique, êtes-vous en forme?
Oui, oui,
super.
Oui, bien sûr.
Alors, on parle de la crise du logement, mais autrement avec vous.
Oui, alors le titre de l'article que j'ai retenu, Hélène, c'est « Crise du logement, alors que l'État se désengage, une entraide de proximité permet d'éviter le pire ». Et c'est un article qui est rédigé par Nicolas Bancherki, Mathieu Chaput, et de tous les deux de l'Université TELUC, et Nassiri Sahara, qui est étudiante à la maîtrise en communication internationale et interculturelle à l'UQAM. Alors, d'abord, ils nous font un portrait de la situation. Bon, on a entendu beaucoup de choses à la radio, donc je pense que ça va résumer tout ce qu'on a pu entendre dans les lire et entendre dans les médias. Alors, face à la crise du logement, il y a une autre forme de solidarité qui émerge, l'entraide entre locataires. Dans l'ombre des institutions débordées, il va sans dire, des citoyens s'organisent pour s'aider, partager des conseils et trouver des solutions ensemble. Ça, on n'en parle pas dans les médias. Dans plusieurs villes, les...
En tout cas, on en parle moins.
En tout cas, oui. Moi, j'ai pas vu. Vous avez vu?
J'ai vu certains billets, certains textes où il y avait un peu plus d'espoir, où on sentait qu'il y avait de l'entraide, de la solidarité, de la volonté de s'en sortir.
Tant mieux, peut-être dans les textes d'opinion, hein, peut-être. Mm-hmm. Alors, dans plusieurs villes, le taux d'inoccupation frôle ou tombe sous la barre de 1% pendant que les loyers grimpent en flèche. Face à cette rareté de logements abordables, les élus comme les médias tirent la sonnette d'alarme. Et même si la situation est critique, mais le tribunal administratif du logement, le TAL, a récemment proposé une hausse record des loyers de 5,9% en moyenne, un coup de massue pour les locataires déjà fragilisés. Cette crise, bien que dénoncée de longue date, on peut dire de plusieurs années, par les groupes communautaires et militants, prend désormais une ampleur inédite. En toile de fond, deux facteurs structurels, le manque chronique de logements sociaux et un marché de plus en plus livré à la spéculation immobilière. Un autre élément important est le dysfonctionnement du TAL. Les ressources des comités logements présents dans chaque quartier ou ville du Québec ne sont pas comparables à la multiplication et à la lourdeur croissante des cas qu'ils accompagnent. Leur financement s'accompagne de plus en plus de conditions, comme celle de ne pas dénoncer les dysfonctionnements du tribunal administratif du logement. Celui-ci se fait reprocher, entre autres, les longs délais de traitement, les décisions étant souvent rendues bien après que les locataires ont dû déménager ou subi un préjudice important. Le TAL a aussi échoué à empêcher les loyers d'augmenter de manière draconienne. Vous avez entendu et lu au sujet de ces chiffres, Hélène, jusqu'à 71% à Montréal depuis 2019. Et ce, malgré que le Québec soit censé avoir une politique de contrôle des loyers. Il y a quelque chose qui est troublant là, dans tout ça. Là. À Montréal, comme ailleurs dans la province, le manque chronique d'inspecteurs a aussi contribué à la multiplication des logements insalubres. On voit aussi à travers Montréal, je pense surtout, des HLM qui sont pratiquement placardés parce qu'ils n'ont pas été entretenus. C'est une source d'habitation...
Perdue.
Perdue, carrément. Alors, malgré... Et ça, parce qu'on n'a pas entretenu. Hein.
C'est ça, il y a eu un laisser-aller, de la négligence.
C'est incroyable. On ne peut pas imaginer... Malgré une hausse des inspections à Montréal au cours de la dernière année, celle-ci ne mène qu'à de timides amendes et tarde à se traduire en amélioration de conditions de vie des locataires. On dirait qu'on a peur d'agir vraiment de façon plus draconienne. Face à cette conjoncture, les locataires livrés à eux-mêmes doivent donc trouver des alternatives comme l'entraide. D'ailleurs, 75% des Québécois affirment faire du bénévolat directement auprès d'autres personnes sans passer par un organisme formel. C'est assez impressionnant comme chiffre.
Je comprends. 75%?
Oui. C'est ce phénomène que les trois chercheurs sous la supervision du professeur Ben Chéric ont voulu mieux comprendre dans le cadre du projet qu'ils ont intitulé « Entraide dans les marges ». L'équipe de recherche a passé en revue la littérature scientifique sur les pratiques d'entraide à l'échelle mondiale et analysé des échanges entre locataires québécois, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, en marge des institutions censées les accompagner, comprendre comment les personnes s'entraident est une démarche nécessaire. L'équipe a constaté le désarroi des locataires, mais aussi leur générosité lorsque vient leur tour d'aider les autres par des conseils ou des solutions pratiques. Ainsi, l'étude a permis de constater notamment sur des groupes comme Reddit que des familles demandent dans quelle région elles peuvent déménager afin de ne pas se retrouver à la rue alors que leur loyer augmente dangereusement ou qu'elles sont menacées d'expulsion. L'étude révèle que de nombreuses personnes offrent un hébergement pour quelques jours à des inconnus dans le contexte où les ressources en hébergement se font rares. La littérature suggère que face au désengagement de l'État et à la dissolution du tissu communautaire, les citoyens s'en remettent à l'entraide, c'est-à-dire au soutien de pairs qui sont passés par des expériences similaires ou qui sont en mesure de les aider. Dès les années 1980, certains auteurs, comme le chercheur américain Lawrence Schulman, soulignent que l'entraide se fait par la communication, grâce au partage des idées, des faits, des croyances et de ressources. Probablement que les médias sociaux maintenant mettent, beaucoup plus d'emphase sur ces éléments de réponse par l'entraide. L'équipe de recherche a ainsi observé comment s'organise l'entraide sur les réseaux sociaux grâce au langage et à la rhétorique employée. Elle a remarqué que les demandes d'aide et leurs réponses suivent une même structure. Alors, les internautes commencent par formuler un problème, montrant qu'ils en sont les victimes et non pas les auteurs, et en insistant sur leur vulnérabilité, suscitant ainsi l'empathie de leur auditoire. Ils indiquent ensuite l'aide qu'ils souhaitent recevoir au moyen d'une question et en éliminant les options déjà explorées. Ils montrent qu'ils connaissent les règles implicites de la communauté par l'emploi de formules de politesse et d'émojis remplissant une fonction relationnelle. Alors, les réponses dépendent de la formulation de la demande. Si une demande ambiguë génère des réponses très diversifiées allant de l'encouragement à porter plainte au tribunal administratif du logement à l'offre de colocation, en passant par des conseils juridiques plus ou moins avisés. Certains répondants redéfinissent le problème initial, suggérant que la personne demandeuse a mal identifié l'enjeu de la situation. Les réponses méprisantes suscitent des rappels de l'importance d'être empathique envers les demandeurs d'aide.
Oui. Alors sinon, on se retient, on ne parle pas, on n'écrit pas.
C'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une structure de questions-réponses.
Oui.
Un fait intéressant a surgi des analyses de l'équipe de recherche. Si la structure des messages ne variait que peu, les messages anglophones diffèrent clairement de leur homologue francophone.
Ah bon?
Alors, les demandes d'aide en anglais consistent davantage en partage d'expériences personnelles et en appel à l'action politique, tandis que ceux rédigés en français se concentrent davantage à résoudre un problème pratique.
Ah bon?
C'est intéressant comme
alors... C'est la faute du gouvernement d'un bord, puis je sais pas moi, il manque un bord à ma table, à ma chaise.
Exactement. Alors, les groupes de discussion dans les deux langues sont aussi l'occasion de nombreuses rencontres entre locataires et propriétaires. Ça m'a vraiment étonnée, ça. Et ces derniers, donc les propriétaires, expriment souvent de la compassion envers les situations difficiles décrites dans les demandes d'aide et s'indignent des pratiques parfois malhonnêtes des propriétaires, des autres propriétaires, donc des propriétaires concernés. Au-delà de la division entre propriétaires et locataires, il semble donc que les réseaux sociaux offrent aussi un lieu de dialogue entre ces deux catégories de personnes.
Là aussi, il doit y avoir toutes sortes de dialogues. Ça passe de la compassion, la compréhension à la grosse chicane, là.
Oui, probablement, mais on a l'impression que l'espace de dialogue, en tout cas, occupe une place importante.
C'est un dialogue, en tout cas.
Oui, c'est ça qui est important. Et peut-être qu'il y a des modérateurs aussi entre tout ça qui facilitent le dialogue. Cette forme d'entraide, bien que ponctuelle, n'en est pas moins essentielle. Dans un contexte où l'État se dégage de ses responsabilités...
Se désengage.
Pardon?
Se désengage.
Plutôt. Se désengage, ouais. Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Dégage.
Ah, mon Dieu, excusez-moi.
Mais ça aurait pu aussi.
Mais il se dégage aussi.
Oui.
de ses responsabilités en matière de logement, elle agit comme un filet de sécurité improvisé. Elle ne remplace pas les politiques publiques, mais elle pallie leur absence les plus criantes. Alors, documenter ces pratiques peut contribuer à mieux outiller les locataires, les aider à formuler leurs demandes, à identifier des ressources et à maintenir des réseaux d'entraide durables. Parce qu'en l'absence de solutions structurelles, mais c'est souvent cette solidarité de proximité qui leur permet d'éviter le pire. Mais je pense que l'élément essentiel, c'est peut-être justement ce désengagement de l'État. On parle, mais est-ce qu'on agit vraiment?
Ouais.
Par hasard, je lisais un article, Hélène, dans Reasons to be Cheerful, et on nous mentionnait la réalité qui est celle de la Norvège, encore de ces pays nordiques. À Oslo, il n'y a pratiquement plus de personnes qui dorment ou vivent dans la rue parce que l'État s'est engagé à trouver à appuyer, en fait, des démarches de construction de logements et d'aider ces personnes à réintégrer aussi un espace de vie normal. Alors, il y a des solutions possibles.
Merci beaucoup. Il y a José Legault aussi qui écrivait tout récemment une chronique à ce sujet, au sujet des logements là, qui sont en crise. En fait, c'est la crise du logement. Et le titre de sa chronique, « Sur quelle planète vit la ministre de l'Habitation? », ça a été publié le 2 juillet. Si cela vous intéresse, la crise du logement, on le sait, s'envenime. Partout au Québec, c'est le Far West pour des milliers de Québécois dont l'unique péché, semble-t-il, est de ne pas être propriétaire. Merci, Monique.
Oui. Bienvenue.
Aujourd'hui la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver. Vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire. Vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et que plus jamais rien ne redoute d'autre destin que celui du doute. Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto et ce jour sur cette plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux.
Jean Leloup et sa balade à Toronto.
Merci Mathieu. Alors Monique, encore à vous avec des brèves. Combien de jours faut-il pour installer une routine? Il me semble que j'avais entendu 21. Non?
Bip!
Ah! Bien, c'est pas ça.
Parce que selon une recherche faite par... attendez, est-ce que je vois... Des chercheurs australiens, voilà.
Ouais.
Il faut 55 jours...
Ah, 55! Bon, c'est
pour
plus.
Pour installer une routine, voire jusqu'à 66 jours en moyenne. Et ça, c'est seulement, Hélène, pour intégrer une nouvelle habitude toute simple. Par exemple, emporter avec soi une gourde d'eau.
OK. Tout simplement.
Si on veut commencer à faire des étirements tous les matins, par exemple.
Moi, ça me prendrait plus que 66 jours.
Oui. Bien, il vous faudra compter au moins 106 jours de routine.
Ah, 106.
Oui. Et même 154 si vous avez décidé de le faire le soir.
Alors, donc, pour arriver à intégrer la routine, il faut le faire pendant 106 fois. La routine de s'étirer à tous les matins. Si oui. on le fait 106 fois, on est correct.
On devrait être correct.
On devrait.
Oui,
alors, en principe.
Alors, les chercheurs australiens qui ont vraiment analysé 20 études sur le sujet ne veulent décourager personne. Ils donnent même des petits trucs. Selon eux, le succès tiendrait en 3 étapes. Fixer soi-même son plan d'action. Il ne faut pas que ça nous soit imposé par quelqu'un d'autre. Hein.
Ça ne marche jamais, ça.
Puis décider quel est le meilleur contexte pour y arriver. S'appliquer régulièrement. Bon, là, ça, c'est clair. Il ne faut pas interrompre. Et conserver la trace de ses progrès.
Oui.
Alors, on s'améliore un petit peu. Les étirements, par exemple. On va dire, là, je suis capable de m'étirer. Si je me penche, je suis debout, je veux mettre mes mains, je veux toucher mes mains au sol, puis j'y arrive pas. Bien, tout doucement, à force de répétition, je vais pouvoir peut-être me rapprocher du sol. Alors, je note ça.
On l'écrit dans un carnet, puis ça peut être motivant, oui.
Exactement. Mais quand on arrête, c'est tellement difficile de reprendre.
Tout à fait.
Alors, voilà, 106 jours.
OK.
54 ou 106.
Vous avez dit 55, 66, 106. Puis arrêter de fumer, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer, là, mais ça a été long. Ouais.
Ça a été long?
Il y a des essais, erreurs, des tentatives, des échecs, mais il ne faut pas lâcher. Oui, ça a été long, là, comme une année de...
D'aller-retour,
mais aussi de conversation avec mon mental.
Ah oui!
T'es capable.
Votre fond d'intérieur.
Oui. Elle est bonne. Écoute ton char.
Oui.
Des globules rouges adaptés à tous les groupes sanguins.
Eh bien oui, mais ce qui est extraordinaire, Hélène, c'est que, bon, c'est une petite brève que j'ai trouvée dans Epsilon, mais ça concerne le centre hospitalier universitaire de Québec. C'est là que ça a été réalisé. Alors, grâce au ciseau génétique CRISPR, vous vous souvenez du prix Nobel là, qui a été remporté par des dames qui avaient fait cette découverte, les chercheurs ont éliminé les principaux antigènes, c'est-à-dire ça, c'est des protéines qui sont fabriquées par le système immunitaire, de cellules progénératrices de globules rouges. Alors, on a obtenu ainsi des cellules de donneurs universelles O négatif. Alors, c'est un espoir pour contourner la pénurie chronique de sang à transfuser et les problèmes de compatibilité. Bon, il reste par ailleurs à déployer le processus à grande échelle. Mais on leur dit bravo, puis on leur dit merci.
Complètement. Il y a un début à tout. C'est encourageant.
Oui.
Et on termine avec la capsule linguistique 5 propositions de l'OQLF, qui est l'Office québécois de la langue française, dans le Petit Larousse illustré.
Oui, parce qu'il faut savoir, Hélène, que chaque année, l'Office suggère à l'équipe éditoriale du Petit Larousse illustré l'ajout de mots ou de sens représentatifs de l'usage québécois. Alors, l'édition qui vient tout juste de paraître a ainsi été enrichie de 5 particularités du français d'ici. Le premier mot, c'est circulaire, c'est-à-dire un document publicitaire. Le deuxième, motard et motarde. On parle ici de motocyclistes que l'on associe généralement au milieu criminel. Le troisième, procédurier. un document qui présente des procédures. On aurait pu imaginer que c'était déjà dans le dictionnaire, mais non. Le mot pont pour prothèse dentaire. Et enfin, réduflation. On connaît maintenant ce mot, réduction de la quantité de produits vendus au même prix.
Alors, des fois, ça coûte encore plus cher, puis on en a moins pour notre argent.
Exactement. Et ce serait sous l'entrée, ça, shrinkflation. Alors, c'est drôlement plus beau, réduflation. Cette fructueuse collaboration entre les deux organisations contribue d'année en année, donc, à la valorisation du français québécois. Bien, permettez-moi aussi, Hélène, de vous rappeler que l'Office québécois de la langue française a quand même un outil fort utile pour nous qui sommes toujours à la recherche du mot juste ou de l'accord de mots, la vitrine linguistique.
Oui.
C'est un outil, en tout cas, que je trouve moi fort utile et pas seulement moi, puisqu'il y a un sondage qui a été mené auprès de 1281 internautes qui révèle que la satisfaction globale s'élève à 9,26 sur 10. Alors, on les remercie. Mais ils prennent pas toujours des bonnes décisions.
Des fois, ils changent d'avis. Ils avancent, ils reculent.
C'est ça. Donc, comme vous me le faisiez remarquer, l'Office québécois de la langue française a fait marche arrière par rapport au Go, Abs-Go.
Mais ça fait quand même drôle à entendre. Elle fait marche arrière avec le Go. Le go, abs, go. Alors, on avance, mais on recule.
C'est un pas devant, 10 pas derrière, je sais pas.
Allez, Canadiens, allez! Il me semble que ça se disait mal.
Ça se disait très mal. Mais je pense que parfois, je pense que c'est Guy Bertrand qui disait qu'il faut quand même voir qu'il y a l'utilisation populaire qui prend le dessus.
Oui, l'usage finit par gagner, en tout cas la plupart du temps. Mais des fois, on a peur. Le bon matin, là, ça nous tente moins.
Ben oui.
Ça fait du sens.
C'est nos deux marottes.
Oui, mais go, abs, go, me semble que c'est dans l'usage depuis belle lurette.
Ben exactement. Je pense, je regarde l'article, il y a Benoît Melançon, qui est professeur émérite de littérature à l'Université de Montréal, qui est un spécialiste d'ailleurs du hockey. Il fallait qu'il fasse marche arrière. Puis c'était peut-être pour répondre à une commande politique, parce que le ministre...
Jean-François Roberge, de la langue française.
Ben lui, il a tout de suite réagi en disant, mais voyons donc, est-ce que c'est ça?
Oui, il dit, l'expression fait partie de la culture québécoise et que toute plainte future concernant ce slogan serait rejetée. Mais moi, j'ai lu, c'est dans la presse, on en parle un peu partout, là, dans Le Devoir aussi. On dit que l'Office indique que bien que « aller » soit le terme privilégié, l'usage du mot anglais à des fins d'encouragement est désormais partiellement légitimé. Partiellement.
Oui. Mais là, on va voir.
Alors, on va dire « go, Canadien, allez
». Oui. Ou « allez, go ». Enfin.
Bon, alors, Monique, là-dessus, on se dit au revoir.
On parle « go » puis on récolte 200 $.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le temps de jouer au Monopoly cet été, mais je vous souhaite un bel été. On va se retrouver quelque part au mois d'août et je vous fais la bise.
Bien, moi aussi, Hélène, de belles et joyeuses vacances.
Merci beaucoup et merci pour toutes vos collaborations. Au plaisir de vous retrouver.
Également. Au revoir.
À venir, Alyosha Schneider et une chronique, une entrevue, c'est-à-dire.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Y'a rien à espérer de moi. Passe ton chemin, t'arrête pas. Non, y'a rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. j'ai jamais eu peur de personne. Avant, ouais, avant, ouais. T'embête pas, y'a rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde? Quand ceux qu'on aime nous aiment plus. Qu'il y a une chose plus triste au monde quand ceux qu'on aime nous aiment plus.
La chanson « Avant elle » d'Alyosha Schneider.
Cet été, le magazine Continuité plonge dans le patrimoine industriel du Québec et ça me fait plaisir d'en parler avec Caroline Fortin, qui est directrice générale des éditions Continuité et rédactrice en chef du magazine. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet?
Oui, en fait, c'est un sujet tellement actuel. Donc, on est en train de repenser comment est-ce qu'on peut valoriser notre patrimoine industriel, qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments qui sont vacants. Donc, il y a aussi une centaine de musées qui ont pour vocation la valorisation du patrimoine industriel. Donc, voilà, c'est un sujet qui était actuel, qui était chaud, on avait envie d'en parler.
Et vous racontez dans votre billet du magazine Continuité, là, le numéro disponible depuis tout récemment, que oui. Votre première incursion dans le monde de l'industrie papetière s'est passée en Mauricie, à Trois-Rivières.
Oui, donc j'ai fait mes études à l'Université de Trois-Rivières, puis j'ai eu la chance de visiter le musée Borealis. Puis j'ai été tellement impressionnée par la machinerie, par le lieu aussi, la présence de l'eau. Donc c'était vraiment un moment impressionnant. Puis j'étais contente de terminer cette boucle-là en me plongeant dans le patrimoine industriel là, pour le numéro d'été.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des lieux que vous avez visités, là, sur lesquels vous avez mis de la lumière là, dans le magazine?
Oui, donc on a fait comme un genre de tours d'horizon là, de lieux qui ont été reconvertis, donc de patrimoine bâti industriel qui ont été reconvertis. On a, par exemple, j'ai cherché la fonderie Darling à Montréal, mm-hmm. qui a été reconvertie en centre d'art. C'est un bâtiment tellement grand, donc la vocation artistique a vraiment toute sa place. Il y a la pulperie de Chicoutimi aussi, qui a tout un lot de bâtiments là, qui a été préservé. Donc ça, c'est absolument magnifique. Puis évidemment, le meilleur exemple, ben, un des meilleurs exemples de préservation de patrimoine industriel dans le monde, ça se trouve à Toronto. Donc nous, notre mission est plutôt à vocation provinciale. Donc on parle du Québec, mais là, dans ce cas-là, on ne peut pas passer à côté de du série district à Toronto. Donc c'est absolument magnifique. Là. C'est de multiples bâtiments qui ont été préservés puis de manière extraordinaire.
Ah oui, il y a des photos couleurs. Il y en a aussi en noir et blanc, mais celle de Toronto, là, de la distillerie à Toronto, elle est vraiment belle. Ça nous donne envie là, d'aller la visiter. Et donc, il y a du patrimoine industriel bâti, paysager ou encore mémoriel. Comment se porte le patrimoine industriel du Québec, diriez-vous, Caroline Fortin?
Bien, ben en fait, moi, je suis pas une spécialiste de ça, je suis rédactrice en chef, mais ce que nous disaient les intervenants, c'est qu'avant, il y avait une stigmatisation autour du patrimoine industriel. Tu sais, c'est un patrimoine qu'on voyait comme c'est comme si c'était pas bon pour l'environnement. Il y avait l'exploitation des ouvriers, par exemple. Donc, il y avait une connotation négative. Puis, ça venait jouer aussi sur la préservation de ce patrimoine. Mais en même temps, si on fait juste table rase du passé, on n'apprend pas de nos erreurs, on ne va pas vers l'avant. Donc, là, il y a comme tout un mouvement de préservation, puis de montrer aussi le beau dans le patrimoine industriel, puis de montrer qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aujourd'hui, pour les contemporains. Donc, on a été sur la mémoire ouvrière. Donc, ça, c'est tout un pan qui est très, très important de ce patrimoine. Parce que là, ça vient toucher à des vies, ça vient toucher à des quotidiens de personnes. Donc, c'était quoi le bon, c'était quoi le mauvais dans toute l'histoire industrielle. Puis, concernant les paysages, par exemple, il y a les mines d'amiante à Thetford Mines qui sont controversées. Mm-hmm. Mais en même temps, ça fait un paysage absolument magnifique. Puis, si on enlève là, toutes ces mines d'amiante-là, bien, si on les recouvre, par exemple, tous les bassins d'eau qui sont présents aujourd'hui, bien, on enlève l'histoire, finalement, de ce village, bien, de cette ville. Donc, il y a toute cette réflexion-là de préservation du passé pour mieux le valoriser là, dans le présent.
Marqueur de territoire, hein, c'est le titre du dossier oui. de Valérie Gaudreau. Et il y a Alex Tremblay-Lamarche qui s'est entretenu avec Archéo-Québec pour parler d'amulettes égyptiennes au Québec. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Parce que c'est assez intriguant.
Oui, en fait, c'est qu'on a toujours dans chaque numéro notre dossier thématique, là, c'est patrimoine industriel, mais on a aussi des chroniques qui sont non thématiques. Donc, celle-là faisait partie de nos chroniques non thématiques. C'est vraiment fascinant parce que c'est des amulettes égyptiennes qui ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques à l'îlot des Palais, en basse-ville de Québec. Mais dans un lieu où on ne s'attendait pas à en retrouver du tout, puis que c'est assez rare là, de faire ces découvertes-là. Donc, ils ne savent pas exactement qui les a amenés là, c'était quoi leur fonction, mais il y a plusieurs hypothèses, là, comme un homme influent qui était passionné là, de
d'artefacts.
Oui, d'artefacts anciens et tout ça. Donc, ça pourrait expliquer, mais en même temps, ça reste un mystère, puis là, ben, tout ça à découvrir. À ce niveau-là.
Oui, il y a Pierre Lahoude, lui, qui parle d'une visite de Churchill dans la forêt québécoise. Est-ce que l'ancien premier ministre britannique s'est vraiment rendu dans nos forêts?
Oui, absolument. Donc, il a même écrit des discours importants là, dans nos forêts québécoises. Donc, lors de vacances, il a resté des parties de pêche aussi à la Calédonie en 1943. Donc, on a eu cette visite importante.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou intéressé dans les recherches qui ont été faites pour ce numéro, dans les articles qui ont été présentés, vous qui êtes rédactrice en chef du magazine, Caroline Fortin?
Oui, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est l'histoire des barrages, l'histoire d'Hydro-Québec. Donc, ça fait partie de notre histoire industrielle. Puis, ça fait des photos tellement magnifiques. D'ailleurs, c'est ça qu'on a en couverture, une photo d'un barrage. Mais
impressionnant, spectaculaire
ah oui,
même.
Absolument. Puis c'est tellement un héritage important au Québec, l'hydroélectricité. Donc, de le voir en parler dans la section paysage, paysage industriel, moi, j'ai adoré ce papier-là.
Et grande nouvelle, le magazine fait peau neuve avec un nouveau papier, une reliure et même un signet, un marque-page offert. Qu'est-ce qui a guidé ces changements?
Oui, c'était un rêve qu'on avait depuis très longtemps. Donc, avant, on avait une couverture brochée. Aujourd'hui, on a une couverture allemande. Donc, dans le jargon littéraire, ça veut juste dire que c'est une couverture comme un livre. Donc, c'est relié. Puis, ça vient apporter une signature encore plus de plus grande qualité. Là, au
magasin, c'est comme un objet de collection, là.
Oui, exact.
Donc, l'était avant, par exemple, aussi.
Oui, il était déjà très beau. Là, ouais. On va encore plus loin dans notre volonté de s'affirmer comme un objet culturel de grande qualité. Il y a 80% de nos lecteurs qui en font une collection, donc c'est important pour nous de refléter cette volonté-là. Puis le papier est encore de meilleure qualité, la couverture, elle est extraordinaire, donc on ne change pas notre contenu qui est super apprécié, mis à part qu'on a rajouté une nouvelle chronique là, qui est comme des questions-réponses avec des gens patrimoine qui est super apprécié, mais sinon notre signature graphique, c'est vraiment le papier qui vient être modifié, puis ça fait toute la différence, on est tellement fiers.
Ah oui, c'est de toute beauté, et le beau signet aussi est à conserver, et il y en aura un à chaque numéro, un signet,
oui,
ou un marque-page?
Exact, un signet qui à la couleur de la nouvelle thématique. Puis c'était quelque chose qui nous avait été demandé lors d'un sondage à nos abonnés. Puis on s'est dit, bon, ben, on va répondre à votre demande.
Vous êtes bien ouvert, vous êtes bien à l'écoute de vos abonnés.
Ah, absolument.
Est-ce qu'il y a toujours une communication assez présente entre les lecteurs du magazine et l'équipe de continuité?
Oui, absolument. On a un comité de rédaction qui
On vous perd un peu, là, Caroline. Excusez, on vous a perdu un peu. C'était comme si vous étiez dans la brume ou je ne sais pas où, là. Non, non, mais une petite phrase, là. Vous parliez de la communication que vous aviez avec vos lecteurs.
Absolument, on a un comité de rédaction qui est constitué de spécialistes en patrimoine, donc qui nous aide à travailler pour plus. On a aussi créer un sondage à nos abonnés l'automne dernier. Ça nous a donné une mine de renseignements. Donc, on essaie de faire plaisir à nos lecteurs, tout simplement.
Et vous allez vous envoler vers la France à l'automne.
Oui.
qu'est-ce que vous allez y faire?
Oui, en fait, on est très, très chanceux. On a été invités par les éditions Septentrion, qui est une maison d'édition en histoire ici au Québec. Puis eux, ils vont créer comme une genre de table de présentation avec d'autres éditeurs québécois à Blois, au Festival d'histoire de Blois en France.
Mm-hmm.
On va se rendre là, puis on va pouvoir vendre nos revues, tisser des liens avec la communauté française, mais on va avoir aussi une rencontre avec le Salon du livre de la revue. Donc, ça s'appelle Entre revues qui organise ça. Puis, on va même probablement faire une présentation là, dans le cadre de cet événement-là. On va aussi rencontrer la revue Patrimoine, qui est une revue qui est publiée par l'Institut du patrimoine de France pour échanger sur nos pratiques éditoriales. Donc, il y a plusieurs missions dans cette mission européenne. On a très hâte. Je pense que ça va être très, très enrichissant.
Ça, c'est sûr. Alors, si les gens veulent s'abonner, acheter le magazine, comment ça fonctionne, là? On peut s'abonner ou on peut l'acheter aussi là dans un kiosque à journaux, en ligne?
On est distribué. Le plus facile, par contre, c'est d'aller sur notre site web, donc magazinecontinuité.com, dans la section « S'abonner », tout simplement.
Bon, alors c'est tout simple. Là-dessus, je vous souhaite un bel été. On va se reparler lors de la prochaine sortie du nouveau numéro, celui d'automne ou de l'hiver. Hein? Je pense qu'il y en a combien par année?
Il y en a quatre.
Il y en a quatre à chaque saison.
En septembre, sur le patrimoine olfactif.
Oh, wow! Oui. Vous allez parler des parfums?
Oui, absolument.
Bon, c'est un rendez-vous. Caroline Fortin, merci beaucoup. Puis au plaisir de vous reparler. Bon été d'ici là.
Merci, bon été.
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong qui chantait Louis Armstrong qui chantait Summertime.
Chanson d'été parfaite. C'était dans la presse d'hier, Bruno Gauvreau dénonce des coupes inhumaines qui l'obligent à renoncer à tout ce qui lui procure un certain confort. Je m'appelle Bruno, j'ai 66 ans, je suis lourdement handicapé et membre de l'association Sclérose en plaques Rive-Sud. Ne vous trompez pas, je suis heureux malgré tout. Je déambule en fauteuil roulant motorisé et avec mon super bolide, je vais dans ma rue et au centre commercial. Les gens me saluent, ils me reconnaissent, je navigue sur les réseaux sociaux, j'écoute de la musique et je fais du jardinage avec ma voisine. J'ai même une activité de peinture. Bruno Picasso s'exprime. J'habite un appartement de 5 pièces dans une coopérative d'habitation depuis 26 ans. Je participe au CA et au fil du temps, je suis devenue amie avec les autres membres. Je suis privilégiée car de ma porte-patio, je peux admirer la nature. J'ai même une cabane d'oiseaux et quelques amis à plumes. C'est mon petit coin de paradis. Pratico-pratique, je reçois des services de maintien à domicile qui me permettent de vivre chez moi malgré ma perte d'autonomie. Je vous explique, on me lève, on fait ma toilette, on m'habille, on me sert mes repas et puis on me recouche. On installe ma tubulure comme une embrasure pour que je respire mieux pendant la nuit. Tout un programme. Depuis 10 ans, Susanna, mon aide à domicile, prépare mes repas. J'ai une diète spéciale qui contribue à mon bien-être physique. Elle s'occupe aussi de la buanderie et nettoie la maison. J'ai confiance en elle. La physiothérapeute, dont j'ai bénéficié pour une durée de 8 semaines, lui a appris certaines techniques qu'elle pratique pour soulager mes contractures et maintenir ma flexibilité. Elle est là 2 fois par semaine. C'est une amie essentielle. Il y a un mois, 2 représentants du CLSC sont venus chez moi m'annoncer des coupes dans l'octroi de mon aide à domicile. Au lieu de 12 heures par semaine, j'aurai maintenant droit à 2h15 par semaine, une coupe de 81,25. Dans la foulée, on m'annonce que je ne pourrai plus utiliser les services de mon aide à domicile ils seront obligatoirement dispensés par une agence et probablement que toutes les pièces ne seront pas nettoyées. C'est jugé trop grand. Quant à mon alimentation, on me suggère de considérer les repas congelés. Je n'ai reçu aucun avis écrit préalable et eu seulement 2 semaines de préavis. Cela m'a donné un choc. Mes faibles revenus ne me permettront pas de retenir les services de Susanna. Je m'inquiète et je rencontre présentement des difficultés à dormir car tout cela trotte dans ma tête. Combien sommes-nous à subir ces coupes, à vivre ce drame? 2 représentantes ont choisi un jour d'exercer un métier altruiste et sont prises en otage pour délivrer des messages inhumains. Et l'on s'étonne du manque de personnel en santé et de l'augmentation du nombre de congés de maladie dans ce secteur. J'aurais préféré recevoir Messieurs Legault et Dubé ou encore Mme Biron pour qu'ils assument concrètement la portée de leurs décisions et prennent conscience des répercussions que leur gestion déficitaire occasionne. Je comprends que notre système de santé éprouve des difficultés, mais ces mesures sont déraisonnables, sans compter qu'elles vont directement à l'encontre des orientations axées sur le maintien à domicile prônées haut et fort par notre gouvernement. Je ne fais pas partie de ceux qui peuvent sortir dans la rue taper sur des casseroles, mais je fais entendre ma voix pour ne pas qu'on passe sous silence ces mesures inhumaines, des mesures qui ciblent les plus démunis de notre société et pour ne pas me sentir impuissant devant l'inadmissible. C'est donc une lettre, c'était dans la section dialogue, soins à domicile, le couperet tombe sur ma qualité de vie. Ça a été publié hier et c'est signé Bruno Gauvreau de Sainte-Julie. C'est le moment de se dire bye-bye, mais on va se retrouver à la fin du mois d'août, le lundi 25 août. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute et continuez de l'être parce qu'au quotidien, ne prends pas de vacances. Dès la semaine prochaine, ce sera Yvan Deslauriers et ensuite Denis Martin Chabot. Passez un bel été. Merci Mathieu pour tout. À la prochaine.
Pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on s'est dit, pour ce qu'il reste à faire, pour ce qu'on a grandi, pour mieux te revenir, pour mieux te retrouver, pour ne pas que vieillisse tout ce qu'on s'est donné, pour l'ivresse et les rires et ta fougue et mes larmes, ce qui fait que le jour n'est plus un drame, pour ce qui m'a forcé à rester éveillé. Pour ne pas que pourrisse le soleil de l'été, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Ils étaient beaux nos rêves, mais elles sont belles nos vies. Aussi, aussi, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Je suis sûr que tu pardonneras. Après tout, c'est quelqu'un d'autre avec toi. Moi j'étais fou de nos étranges habitudes qui me faisaient penser qu'on était une certitude. Je ne dis pas maintenant que tout est différent, mais c'est la saveur de tout ça qui prend à mon cou et fait trembler ma voix. Toi tu voulais le monde, moi je voulais le tien. Mais c'est tout seul à présent que je me demande comment t'as bouleversé le mien. Alors pour nos secondes là-bas et pour les tiennes ailleurs, sans moi, tu vois, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Ils étaient beaux nos rêves, mais elles sont belles nos vies. Aussi, aussi. Tu pardonneras
Après tout, si quelqu'un d'autre avec toi, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Ils étaient beaux nos rêves, mais elles sont belles nos vies. Aussi, aussi, je pars mais je reste. Tu me pardonnes.